On a beaucoup écrit sur la Première Guerre mondiale. Et dans les années à venir, on va encore beaucoup écrire. Grâce à la Grande Collecte, qui a reçu partout en France un accueil incroyable, les documents pieusement conservés par les familles vont pouvoir être inventoriés et mis à la disposition de tous. Ils vont permettre de faire entendre partout la voix des poilus. Ces poilus, ils ont beaucoup écrit pendant le conflit. Lettres, journaux, chroniques. Mais après le conflit, ils eurent du mal à se faire entendre. Certains, après l'horreur des combats, s'enfoncèrent dans un mutisme perpétuel. D'autres, qui auraient voulu raconter l'inracontable, furent considérés au mieux comme des raseurs, au pire comme des affabulateurs. La France des années folles et des gueules cassées, des veuves blanches et noires, du jazz et des cérémonies commémoratives parla de ces poilus, les honora. Mais il fallait reconstruire et s'amuser. Les plus décorés ne furent pas toujours les plus courageux. Les plus bavards ne furent pas toujours ceux qui avaient couru les dangers les plus graves. Puis, la Seconde Guerre chassa la Première. Les capotes bleu horizon disparurent progressivement des défilés et des dépôts de gerbes, jusqu'à ce matin de 2008, où la France respecta une minute de silence en l'honneur de son dernier poilu qui venait de mourir, Lazare Ponticelli. Et depuis, dans un appétit mémoriel que menace peut-être l'indigestion, elle a préparé son centenaire, occasion de collecter, d'exposer et de lire ces textes conservés comme des reliques dans les armoires et les buffets d'innombrables familles françaises. Ces lectures, elles ont vocation à être lues dans tous les coins de Côte d'Or. Elles me donnent l'occasion de remercier chaleureusement tous les Côte-d'Oriens qui ont participé généreusement à cette grande collecte.
Paysages intimes, pensées secrètes, dévoilées au hasard d'une lettre, d'une page du journal ou des mémoires. Et d'abord, pourquoi la guerre? Le sentiment de l'absurde gagnera peu à peu les esprits, mais ce n'est pas le cas au début du conflit. Les carnets du sergent Guyenot font une analyse de la situation géostratégique de l'Europe en commentant les communiqués officiels. Mais il comporte quelques notes personnelles qui reflètent l'idée qu'on se faisait alors des Allemands. Ici, nous sommes au tout début de la guerre, le 31 août 1914.
Cette marche allemande n'a rien d'inquiétant. Quand les Russes seront devant Berlin, et ça ne tardera pas, il faudra déchanter. Guillaume avait donné rendez-vous à son état-major à Paris pour le 15 août. Il paraît foutrement en retard. Ha ! La sale horde ! La sale engeance purulente, cette race immonde s'est multipliée comme une épidémie. Et quel travail il va falloir encore pour exterminer tout cela. On y arrivera.
Gabriel Degois, caporal sapeur au 60e régiment d'infanterie, relate le 26 septembre 1914 ce qui se disait de la barbarie et de la duplicité allemande.
Il paraît aussi que l'ennemi se rend coupable d'atrocités inavouables. Ils ont broyé les mains à un jeune homme de 18 ans. Dans une ferme, que je crois être la ferme Saint-Victor, ils ont ouvert le ventre à une femme enceinte, coupé les seins à une autre, jeté à l'eau deux enfants, l'un de 3 et l'autre de 6 ans. C'est ce dernier qui nous a tout révélé. Ils ont toutes les malices pour eux. J'ai vu ce matin le caporal Bonamour de la 5e compagnie, qui, étant allé en patrouille avec 4 hommes et bien qu'agissant prudemment sous bois, est subitement arrêté par le cri de « Halte-là, qui vive ?» Lui répond « France ?» Une fusillade éclate. 3 hommes sont tués. Et tous les jours, ce sont de nouveaux faits.
Achille Philippot, voyant des blessés, se dit le 13 juillet 1915 qu'ils ont peut-être plus de chance que lui, et sa réflexion s'élargit au but de la guerre.
« Ma foi, je me dis, en voyant un blessé... Un qui a peut-être bien de la chance d'être blessé, s'il n'y est pas très gravement, il va revoir les siens. Tandis que tant d'autres qui sont en bonne santé à l'heure actuelle et dans 5 minutes peuvent être morts. Pour moi, j'ai la ferme conviction de revenir, mais sait-on jamais. Dire qu'en temps de paix, on pleure tant un être aimé, et ici, que l'on fait le sacrifice de soi-même. C'est que l'on croit que cette guerre nous a été imposée par ces barbares, cette guerre qui était inévitable, qu'ils la voulaient, et que n'importe quel prétexte leur était bon pour la déclarer. Je préfère la faire moi-même que de voir mes 2 fils, dont l'un a 10 ans et l'autre 7 ans, la faire dans une dizaine d'années. C'est cette paix tranquille que nous voulons nous assurer. Nous voulons briser cette épée de Damoclès pour qu'elle ne soit plus suspendue sur la tête de nos enfants. Alors là, ceux qui rentreront pourront dire qu'ils lèguent à leurs descendants le meilleur héritage que l'on puisse donner. À ce moment, nous pourrons, nous et nos fils, travailler sans crainte d'un nouveau cataclysme.
Au long de la guerre, les horreurs, les fatigues, l'abrutissement n'empêchent pas d'examiner sa conscience. Verdun, juillet 1916. Dans le bois de Loffet, près du fort de Vaux, attaques et contre-attaques mêlent leurs combattants au milieu des lignes. « Qu'ai-je fait ?» se demande, dans les années 1970, André Biteau.
Je tiens à préciser que, dans de semblables situations, je n'hésitais pas. Je faisais comme les camarades, je tirais dans le tas. Je ne sais donc pas si, dans ce cas, j'ai commis des homicides. J'avoue que j'aime mieux ne pas le savoir. J'ai eu plusieurs fois, dans des secteurs tranquilles, un Allemand au bout de mon fusil. Une certaine répulsion m'a toujours empêché de commettre ce que je considérerais comme un demi-crime. Et pourtant, au bois chinois, j'ai tiré sur une masse d'Allemands. Mais les chasseurs français, qui, eux, étaient encore entre les lignes, étaient tout aussi vulnérables. J'en ai peut-être tué, si cela est, que Dieu me pardonne et châtie les responsables de ces horreurs.
Tous les journaux intimes insistent sur la première fois. Pierre Lanvin, né en 1891 et mort en 1965, est soldat au 27e régiment d'infanterie de Dijon. Il se rappelle son premier contact avec la guerre, les 14 et 15 août 1914.
Départ en grand mystère. Le capitaine me fait appeler. Des cavaliers ont vu l'ennemi, brandissant des trophées. Ils nous montrent un casque, une lance. La bataille va commencer. Nous sommes en réserve. Marche à travers les moissons, sans moissonneuse. Large chemin au travers, piétiné. Belle France, paisible. On lui passe dessus. On va, sac au dos, fusil chargé, entraîné vers quelqu'un connu formidable. Le soleil nous brûle. Il plane dans l'air une attente, une angoisse qui oppresse. On ne chante plus, on marche toujours. Jusqu'à un bois où l'on tombe, épuisé, crevant de faim. Distribution de singes, de patates, de café. La futaie, éclairée par de grands feux, est magnifique. La corvée d'eau revient. Ils ont vu des chevaux tués. Odeur affreuse. On se bat tout près. 15 août. Premier bruit lointain mais distinct d'une fusillade. Près d'un ruisseau, un cadavre de soldat français. Je ne l'ai vu que de loin, vaguement, mais c'est mon premier contact avec les réalités de la guerre. Je n'oublierai pas.
Gabriel Degoy, sergent sapeur au 60e régiment d'infanterie, raconte lui aussi le grand jour.
Samedi 25 septembre 1915 et journée suivante. En effet, c'est le grand jour. À 8h30, je pars à l'assaut avec mes pionniers. Quel serrement de cœur quand je passe le parapet, la baïonnette au canon. Tout tombe autour de moi. Le capitaine Reverchon, blessé d'une balle en pleine figure, me crie « Couchez-vous !» Je tombe. Et là, jusqu'à 3h30 du soir, à 20 mètres de la ligne allemande, je revois toute ma famille. Je reste, étendu, jusqu'à ce que les 150 Allemands qui occupent la tranchée se rendent. Ces heures sont inoubliables.
Le baptême du feu n'est pas toujours la première confrontation la plus terrible avec la guerre. Et les paysages de combat sont aussi olfactifs. Dans ses mémoires, intitulées « Souvenirs et réflexions » et écrites bien après la Seconde Guerre mondiale, André Biteau, que nous avons déjà entendu, parle de son premier choc à l'est de Lunéville, en 1915.
En prenant la route, nous assistâmes à une longue procession de brancards, un cortège funèbre qui ramenait à Veubeau pour les enterrer des cadavres de soldats tués à la dernière attaque. L'odeur épouvantable qui se dégageait de ces cadavres en décomposition et qui rendait aux alentours l'air irrespirable fit sur nous une pénible impression. Cette sinistre et longue procession de morts, de cadavres en décomposition répandant alentour son atroce puanteur, produisit sur nos âmes de 19 ans qui pour la plupart n'avaient jamais vu de cadavres une impression pénible. Ce n'était plus l'enthousiasme guerrier délirant. Nous nous trouvions tout à coup confrontés avec la réalité.
On a beau, comme André Bitaud, avoir connu la guerre, Verdun, c'est encore autre chose. Verdun. André Bitaud en a entendu parler. Il en entend le grondement. Mais la première impression directe, fin juin 1916, alors qu'il y monte, il la lit sur le visage des hommes qui en descendent.
En route, nous croisâmes des régiments qui descendaient de Verdun. Quelque chose de lourd et de grave avait l'air de peser sur les épaules de ces autres soldats. Ils étaient comme marqués du sceau de l'horreur et de l'épouvante. On pouvait constater, là, qu'un homme qui avait subi de telles épreuves n'était pas comme un autre homme. On sentait que ceux-ci avaient vécu des moments extraterrestres, des choses inimaginables et indescriptibles. On devinait que la période de quelques jours passés là-bas les avait vieillis de 10 ans.
Le point de vue d'un officier d'artillerie, qui sait qu'il ne montera pas à Verdun, mais restera quelques centaines de mètres en arrière pour pilonner les lignes allemandes, est un peu différent, lyrique, presque fantasmagorique. Le capitaine Bellorger, né vers 1870, écrit le 21 octobre 1916, juste avant la reprise du fort de Douaumont, à Verdun.
Il pleut, et dans la boue gluante, nous roulons pour nos ravitaillements. Le soir, c'est une vraie tempête, et cependant, le jour de l'attaque approche. Pauvre fantassin. Ce soir, je viens d'en voir passer, défilé inénarrable, poignant, des bataillons qui vont aux tranchées d'assaut. Les hommes sont surgis de l'ombre, brusquement éclairés par la lumière blafarde de mes phares. Je vois leurs faces graves sous l'averse, leurs uniformes couverts de boue. La boue s'est plaquée à leurs capotes, à leurs sacs. Elle a garni leurs jambes de la lourde botte de ces mottes brunes. Leurs sacs trop lourds tirent sur leurs épaules qui remontent. Le casque se rejette en arrière de leur tête penchée, leur musette gonflée, la boîte de leur masque bat sur leur côté à chaque pas. Dans les rangs, quelques éclairs, canons de fusil ou acier des gamelles. Derrière, les mulets tirent les mitrailleuses, K1K. En avant, les officiers, à peine reconnaissables, mais si stoïques et si beaux. Pour rendre le tableau plus épique, dans la rafale du vent, au-dessus des arbres mutilés qui gémissent, passe en trombe, dans l'obscurité opaque, un avion invisible. Au-dessus des têtes, son moteur halète, puis son ronflement se perd dans l'espace, et il n'y a plus que le canon qui hurle. Le canon vers lequel vont, avec leurs jambes lourdes, sans un murmure, tous ces petits soldats de France, splendides dans leur stoïcisme.
Et puis il y a les veillées d'armes. On est monté en première ligne, on se terre dans son trou, et l'on attend le signal de l'attaque. Gabriel Degois, dans la Marne, avant l'assaut, raconte que c'est à chaque fois la même impression.
Dimanche 15 avril 1917. Le ciel s'assombrit un peu. Il faut souhaiter qu'il ne pleuve pas demain. Nous avons toujours des pertes, chaque jour, un ou deux tués et quelques blessés. Le soir, à 8 heures, nous montons en ligne. Pas de bruit, pas un mot, voilà la consigne. Comme des ombres fuyantes, nous allons, courbés, nous baissant dans le marais, démasqués par la lueur des fusées éclairantes. À minuit, nous allons couper les fils de fer en première ligne. Minute longue, angoissante. Ensuite, c'est la veillée des batailles dans mon petit trou, tressaillant, sursautant, quand les obus ennemis tombent à proximité.
Le point de vue d'un officier d'artillerie, qui sait qu'il ne montera pas à Verdun, mais restera quelques centaines de mètres en arrière pour pilonner les lignes allemandes, est un peu différent, lyrique, presque fantasmagorique. Le capitaine Bellorger, né vers 1870, écrit le 21 octobre 1916, juste avant la reprise du fort de Douaumont, à Verdun.
Il pleut, et dans la boue gluante, nous roulons pour nos ravitaillements. Le soir, c'est une vraie tempête, et cependant, le jour de l'attaque approche. Pauvre fantassin. Ce soir, je viens d'en voir passer, défilé inénarrable, poignant, des bataillons qui vont aux tranchées d'assaut. Les hommes sont surgis de l'ombre, brusquement éclairés par la lumière blafarde de mes phares. Je vois leurs faces graves sous l'averse, leurs uniformes couverts de boue. La boue s'est plaquée à leur capote, à leur sac. Elle a garni leurs jambes de la lourde botte de ces mottes brunes. Leur sac trop lourd tire sur leurs épaules qui remontent. Le casque se rejette en arrière de leur tête penchée, leur musette gonflée. La boîte de leur masque bat sur leur côté à chaque pas. Dans les rangs, quelques éclairs, canons de fusil ou acier des gamelles. Derrière, les mulets tirent les mitrailleuses, quinca. En avant, les officiers, à peine reconnaissables, mais si stoïques et si beaux. Pour rendre le tableau plus épique, dans la rafale du vent, au-dessus des arbres mutilés qui gémissent, passe en trombe, dans l'obscurité opaque, un avion invisible. Au-dessus des têtes, son moteur halète, puis son ronflement se perd dans l'espace, et il n'y a plus que le canon qui hurle. Le canon vers lequel vont, avec leurs jambes lourdes, sans un murmure, tous ces petits soldats de France, splendides dans leur stoïcisme.
Et puis il y a l'éveillé d'armes. On est monté en première ligne, on se terre dans son trou, et l'on attend le signal de l'attaque. Gabriel de Gouas, dans la Marne, avant l'assaut, raconte que c'est à chaque fois la même impression.
Dimanche 15 avril 1917. Le ciel s'assombrit un peu. Il faut souhaiter qu'il ne pleuve pas demain. Nous avons toujours des pertes, chaque jour, un ou deux tués et quelques blessés. Le soir, à 8 heures, nous montons en ligne. Pas de bruit, pas un mot, voilà la consigne. Comme des ombres fuyantes, nous allons, courbés, nous baissant dans le marais, démasqués par la lueur des fusées éclairantes. À minuit, nous allons couper les fils de fer en première ligne. Minute longue, angoissante. Ensuite, c'est la veillée des batailles dans mon petit trou, tressaillant, sursautant, quand les obus ennemis tombent à proximité.
Puis vient le moment du danger, de la peur, de la mort qui rôde. À quoi pense le poilu alors? Le 13 juillet 1916, André séjournant est de corvée de ravitaillement. Nous sommes la veille de la fête nationale.
Le jour là, c'était le ravitaillement du 14. Il y avait du surplus et je me trouvais un peu plus chargé. J'avais 7 bidons de pinard, 9 bouteilles de champagne dans une toile de tente. Les cigares, je les avais mis dans ma poche avec les sardines, le rata et la bidoche. Les bouteillons, les boulets de pain dans une toile de tente. Un autre prit le pain et les bouteillons, et moi tout le reste. En passant au pays, on reçut quelques obus à gaz. Il a fallu mettre le masque. Et c'était bien gênant car la nuit, on voyait encore moins pour marcher. J'avais peur de tomber et de casser mes bouteilles de champagne. Aussitôt, éloigné du gaz, on remit le masque dans la boîte et en vitesse, on rentrait à la tranchée, car les Boches envoyaient souvent des rafales d'obus. En arrivant près de la tranchée, les Boches firent une fausse attaque à la grenade. Ça tombait tout près. Les éclats sifflaient fort. J'étais couché à plat ventre et je pensais à mes bouteilles qui n'étaient pas bues. J'avais peur qu'une grenade me les casse. Mon voisin, qui avait le pain, se trouva blessé au bras. Moi, je restai encore quelques instants, puis tout se calma, et je sautai dans la tranchée, fier d'avoir tout rapporté aux copains.
Décidément, la peur et la souffrance donnent des idées baroques à André Séjournant. À quoi pense-t-il quand il est blessé pour de bon lors de l'attaque du 20 juillet 1916 ?
On s'était vite mis dans des gros trous d'obus et l'on s'apprêtait à les relier par une tranchée quand nous vîmes venir sur la crête en face une compagnie de Boches qui voulait contre-attaquer. Chacun prit aussitôt son fusil, ajusta son Boche et en peu de temps, ceux qui n'étaient pas tués retournaient en vitesse d'où ils venaient. De gros 210 éclataient autour de nous. Un gros venait de tomber tout près. Je croyais qu'il était tombé sur les camarades de gauche. Je levai la tête pour voir. Au même instant, j'étais frappé d'un éclat d'obus à la tête, au-dessus du nez, entre les deux yeux. Le sang coulait fort, et les 3 copains qui étaient avec moi étaient aussi malades que moi. Je n'ai pas perdu connaissance. J'ai pris mon couteau, coupé mon paquet de pansements, que je me suis appliqué aussitôt sur la plaie, et les copains ont bandé le reste. J'avais eu de la chance, l'éclat avait coupé le bout de mon casque, fracturé l'os et glissé sur la paupière droite. J'avais un œil de boucher par le pansement, mais je voyais assez d'un œil. Je partis aussitôt à travers la plaine sans m'occuper des obus qui tombaient. Un qui avait les 2 jambes traversées par une balle et qui ne savait plus le chemin de l'arrière me suivit et courait comme moi dans les endroits dangereux. En passant au-dessus des Maccabées Bosch, j'avais eu l'idée de leur prendre un bidon, avec le car, comme souvenir. On arriva à l'ambulance de la division de Maricourt. Le major prit mon nom et mon adresse, regarda ma plaie et me fit mon pansement, après m'avoir badigeonné de teinture d'iode. 20 minutes après, je partais à Cuisy, à l'ambulance d'évacuation.
La peur est omniprésente non seulement dans le fracas de la bataille, mais aussi dans le bruit imperceptible et à la fois plus inquiétant encore que font les sapeurs allemands. André Biteau décrit l'état d'esprit qui règne dans sa tranchée de Lintrée à l'est de Lunéville en juin 1915.
Il y avait autre chose sur cette position qui nous impressionnait autrement, qui nous crispait et tendait nos nerfs à l'extrême. C'était la menace permanente d'être projeté à 50 mètres en l'air, déchiqueté et brûlé par l'explosion d'une mine. Car pendant les moments de calme, nous avions décelé un faible bruit, étrange et souterrain, qui se situait juste au-dessous de nous. Bruit que nous croyions être et qui se révéla exact plus tard, les coups de pioche d'un sapeur allemand. À chaque instant, nous collions nos oreilles à terre. Il n'y avait pas de doute, ce n'était pas une illusion. C'était bien de réels coups de pioche que nous entendions. On creusait en dessous de nous. Chose qui peut paraître bizarre, mais la situation dans laquelle nous étions nous faisait désirer, même apprécier, pour notre tranquillité, d'entendre le bruit de cette pioche qui creusait au-dessous de nous. Car, pensions-nous, tant qu'ils creusent, ils ne bourrent pas leur mine. Mais dès que, pendant une certaine période, ce bruit ne se percevait plus, alors là, nous nous attendions à chaque instant à être projetés en l'air, brûlés et déchiquetés.
Puis vient le moment où les bruits assourdissants, le manque de sommeil et d'alimentation, la soif, la peur, la souffrance empêchent de penser par soi-même. Les images viennent d'elles-mêmes et plusieurs de nos poilus ont su les retranscrire fidèlement. Dans son trou pestilentiel, André Biteau, au milieu de l'enfer de Verdun en 16, tâche de survivre.
Des quantités de pensées m'assaillent. Je pense à mes pauvres parents qui ont déjà perdu un fils à la guerre et en danger d'en perdre encore deux autres. Leurs souvenirs réchauffent le cœur, réconfort dont nous avons bien besoin en ce moment. Je pense à ces belles filles aux yeux prometteurs qui réservent tant de bonheur à ceux qui auront la chance de survivre. Mon Dieu, au secours, on nous assassine. Venez à notre secours, ne nous abandonnez pas. Un genre de folie s'empare de nous, d'ailleurs, des fous, les pauvres, qui n'ont pu résister, errent dans les parages. On en a perçu quelques-uns. Quelques-uns ont pu être récupérés. Cette folie est compréhensible ayant atteint le sommet de l'épouvante et du désespoir. Ce traumatisme moral nous poursuivra toute notre vie. Les strophes de la jeune captive d'André Chénier me remontent à l'esprit. L'épi naissant mûrit de la faux respectée. Sans crainte du pressoir, le pampre tout l'été boit les doux présents de l'aurore. Et moi, comme lui, belle et jeune, comme lui, quoique l'heure présente est de trouble et d'ennui, je ne veux point mourir encore. Mon beau voyage encore est si loin de sa fin. Je pars, et des ormeaux qui bordent le chemin, j'ai passé les premiers, à peine, au banquet de la vie, à peine commencé. Un instant seulement mes lèvres ont pressé la coupe en mes mains encore pleines. Ô mort, tu peux attendre. Éloigne-toi, va consoler les cœurs que la honte, l'effroi, le pâle désespoir dévorent. Pour moi, palais encore à des asiles verts, les amours des baisers, les muses des concerts. Je ne veux point mourir encore. Le sifflement des obus de tout calibre et les vibrations continuelles de l'atmosphère nous jetaient dans un engourdissement léthargique et qui pouvait, si l'on y prenait garde, aller jusqu'au sommeil. Pour ma part, je luttais de toutes mes forces contre l'envahissement du sommeil. Et cependant, parfois, j'arrivais à y succomber. J'avais l'horreur d'être tué en dormant. Et pourtant, comme ce sommeil nous faisait du bien, ce sommeil qui serait si bon, qui nous emmènerait loin de cette gêne, dans des rêves irréalisables, dans un cauchemar même, qui ne pourrait pas être plus horrible que celui que nous vivons ici, sur cette terre maudite.
Quand au bout de 8 jours, repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre vie est bien utile, car sans nous on prend la pile. Oui, mais maintenant on est fatigué, les hommes ne peuvent plus marcher. Et le cœur bien gros, avec des sanglots, on dit adieu au civelot. Et même sans tambour, et même sans trompette, on s'en va là-haut, en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on va laisser notre peau. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. 8 jours de tranchée, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance de voir enfin la relève que nous attendons sans trêve. Quand avec la nuit, dans le profond silence, on voit quelqu'un qui s'avance, c'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, nos petits chasseurs viennent chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craon, sur le plateau, qu'on va laisser nos peaux. Car nous sommes tous condamnés, c'est nous les sacrifiés. C'est malheureux de voir, sur les grands boulevards, tant de cossus qui font la foi. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est pas la même chose. Au lieu de se promener, tous ces embusqués feraient mieux de venir dans la tranchée, défendre leurs biens, car nous n'aurons rien, nous autres pauvres purotins. Tous nos camarades sont étendus là pour défendre le bien de ces messieurs-là. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est pas fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à votre tour, messieurs les gros, de monter sur le plateau. Vous avez voulu la guerre, payez-la de votre peau.
Il y a pire encore que les obus des Boches, les tirs amis, les obus des Français, comme le raconte André Séjournant le 4 avril 1918 dans la Somme.
On arrivait sur une route bordée de pommiers. Le commandant s'arrêta au pied d'un silo et donna des ordres. Aussitôt, les compagnies partaient en tirailleurs vers le bois de Montgival que nous apercevions devant nous. Nous autres, on resta par petits groupes au pied de chaque pommier. Là, on vit à tout instant passer des blessés du 29e chasseur qui nous renseignaient sur l'attaque. Les Boches avaient avancé, les forçant à reculer. Mais les compagnies arrivant au contact faisaient reculer les Boches de 2 kilomètres et restèrent en ligne. Sous les pommiers, on se creusa un trou individuel et on installa notre antenne pour transmettre les ordres à la division. Et vers midi, le commandant partit reconnaître les lignes. Il y avait 5 minutes qu'il était parti qu'un 75 nous tapait en plein dessus. Et on ne se faisait pas gros. Le premier coup blessa mon voisin au genou. Le deuxième le reblessa à la figure. Et le troisième blessa mon circonvoisin. On se faisait toujours de plus en plus petit. J'étais couché à plat ventre dans la boue avec mon sac sur la tête. Mais quelle impression qu'un éclatement de 75. C'était pire que le 88 autrichien.
C'est difficile de mettre des mots sur Verdun. Et pourtant, André Bitaud réussit à nous faire comprendre ce qu'il y ressentit. Même s'il écrit plusieurs décennies après les événements, la description des sentiments qu'il éprouve et de son paysage intérieur sonne juste.
Le désespoir envahit nos âmes, des cauchemars d'enfants envahissent mon cerveau. En ce mois de juillet, comme en un doux rêve irréalisable, au milieu de ce chaos, je revois des moissons blondes, des vergers chargés de fruits, j'entends des concerts d'oiseaux dans les bosquets. Cet écrasement continuel autour de nous n'empêche pas la remontée à l'esprit de ces quelques furtifs souvenirs. Notre désemparement est complet. Du fond de ce tombeau où nous sommes ensevelis, les souvenirs qui me remontent à la mémoire me paraissent d'un autre monde, dans lequel, malgré quelques petites misères qui sont bien estompées, la joie et la douceur de vivre sont la règle. Depuis, quand dans la vie j'éprouve quelques difficultés, je me dis « Souviens-toi de Verdun ». Ces pensées rendent encore plus amère notre terrible situation. Parmi les sifflements, les ululements, les éclatements, un pressentiment, un instinct que je ne pourrais expliquer me fit distinguer l'espace de 2 ou 3 secondes parmi la multitude de projectiles qui tombaient autour de nous, le souffle effrayant d'une chose monstrueuse qui allait s'abattre sur nous. Celui-là, je compris qu'il était pour nous. Une flamme immense m'aveugla, un coup sourd à peine perçu par l'ouïe mais dont toutes les fibres du corps vibrèrent, et tout à coup, au milieu du déchaînement, je fus plongé dans le silence le plus complet. Je me trouvais transporté dans un autre monde. J'étais complètement assourdi et peut-être aveugle. Je baignais dans un calme éthéré. J'étais inconscient. Je crus un moment que je venais d'être tué ou tout au moins blessé gravement. Bien que sortant d'une raison chancelante, j'eus l'impression que j'entrais dans un autre monde. Tous les bruits environnants cessant s'étaient transformés en une douce symphonie accompagnée d'un lointain et céleste carillon. Tout était redevenu d'un calme champêtre. Le peu de temps que dura cet état, je sentais que je n'étais plus le même. Ce qui survivait en moi me paraissait impalpable et me semblait n'avoir plus d'attache terrestre. Mon âme, ma conscience, tout le spirituel était comme détaché de leur gangue matérielle. Il me semblait ne plus être sur terre, à tel point que mon éducation religieuse chrétienne, encore non entachée à 20 ans, ni de scepticisme, ni de positivisme, me faisait croire que j'allais comparaître devant Saint-Pierre. Ne riez pas, car là, je n'ironise pas, je ne blague pas. La blague serait d'ailleurs inconcevable pour narrer de tels épisodes. Il est incroyable en si peu de temps la quantité d'idées qui me passèrent par la tête. Cependant, progressivement, je recommençais à percevoir le fracas du bombardement. Ne ressentant aucune douleur, j'étais donc indemne. Tout à côté, des blessés gémissaient. Le coup avait fait mouche. 3 tués, 2 blessés. Et tout à coup, je repensais à Ganilla, qui était avec moi dans le même trou. Dans la nuit, je tendis la main et lui palpai la figure. Il ne réagissait pas, il était inerte. Je le palpais de nouveau sur tout le corps. Aucune trace de blessure ne se manifestant. J'en déduisis que la commotion l'avait tué net.
Parfois, la mort s'approche bien plus lentement qu'une rafale de mitrailleuse ou qu'une marmite. À quoi pense-t-on quand on sait que l'on ne peut que mourir ? Stéphane Bertrand écrit depuis un hôpital de Bergerac à ses parents, qui eux demeurent à Solon-la-Rue, le 7 novembre 1918. Il leur raconte ce qui lui est arrivé quelques jours auparavant.
Dès le petit jour, nous nous étions approchés à travers un feu de barrage qui nous avait déjà bien éprouvés. Nous apprenions là, par des coloniaux, que nous allions nous heurter à des hussards de la mort. Perspective peu encourageante, puisqu'avec ces gens-là, il faut tuer pour ne pas être tué. Ça promettait donc d'être très dur. En effet, à 3 heures, lorsque nous partons de l'avant, précédés par les chars d'assaut, nous sommes accueillis par un violent feu de mitrailleuse. Tout de suite, j'ai la sensation qu'il va y en avoir pour moi. Et 200 mètres plus loin, je reçois tout à coup un grand choc au flanc gauche. Je fis un tour sur moi-même, puis je tombai à plat ventre, les bras pris sous le corps. Je crus que j'avais les reins coupés et je perdais beaucoup de sang. Mon pantalon était tout rouge. Avec mon couteau que j'avais réussi à prendre, je coupais les courroies de mon sac. mon équipement et mes musettes, je fus un peu soulagé. À ce moment-là, les Boches déclenchèrent une contre-attaque. Ma compagnie est obligée de se replier. Les tanks aussi. Alors voici l'effarante situation qui me fut faite. Dans l'impossibilité de me déplacer, je vis à 50 mètres un tank qui reculait en tirant et venait directement sur moi. Il ne pouvait pas me voir. Il ne pouvait pas m'entendre. Et il allait m'écraser. Je vécus là quelques minutes effroyables. Je crus devenir fou. Quand il ne fut plus qu'à quelques mètres, dans mon cerveau presque vide, comme un éclair passa une idée. Je pris une grenade dans ma musette. Je l'amorçai et la fis rouler à côté de moi. Elle explosa, me blessa un peu au bras, mais le tank surpris dévia légèrement pour voir ce que c'était. Et la monstrueuse machine passa à 30 cm de moi, écrasant mon bidon à mes côtés. Le spectre était passé. En arrivant à l'hôpital, je regardais dans une glace si mes cheveux n'avaient pas blanchi. Le tank parti, un autre danger apparut. Les Boches maudits qui avançaient. Cette fois, je n'eus plus guère d'espoir. Ils allaient me prendre et m'achever. Devant cette situation presque sans issue, je ne trouvais rien d'autre à faire que de pleurer et j'ai pensé à vous tous. Puis, dans un accès de rage, je retrouvai la force de me mettre à quatre pattes et je voulus me traîner. Les balles crépitèrent. J'en reçus une dans le pied droit et vaincu par la douleur, je m'écroulai complètement, me disant que c'était fini. Seule la Providence pouvait me sauver. Et elle arriva, sous la forme du premier bataillon, mes braves petits camarades de la troisième, avec lesquels je m'étais battu plus de 2 ans. Vous ne pouvez pas vous imaginer la joie que j'eus de les revoir en un pareil moment, juste pour me sauver. L'un d'eux, un petit de la classe 17 avec lequel j'étais très camarade, me donna un peu d'eau de vie et me serra la main en me disant « T'en fais pas, Fafan, ils vont payer cher ce qu'ils viennent de faire. » Puis il partit. Peu après, le crépitement des mitrailleuses s'était tu et je compris qu'ils avaient tenu parole. À partir de ce moment-là, ce fut les longues heures d'attente. Les brancardiers qu'on attend et qui ne viennent pas, les appels sans réponse, la soif, la nuit, le froid. J'étais transi. Le sang était coagulé sur ma peau. Je tremblais et claquais des dents. S'il fallait vous dire à quoi j'ai pensé, je remplirais 100 pages.
Le capitaine Bellorger, après la bataille en 1915, va se rendre compte de l'effet de ses projectiles. Il est artilleur. Se mettant à la place des ennemis qu'il a contribué à tuer, il ne peut s'empêcher d'éprouver de l'empathie pour la mort lente, inéluctable et atroce qu'ils ont vu venir peu à peu.
J'inspecte les environs autour de moi et ce n'est pas sans une intense émotion que je parcours une petite partie où se joua le drame héroïque. Les parapets de craie sont écroulés, les toits blindés défoncés, et dans le sol crevé, je marche au travers de poutres, de sacs de sable innombrables et éventrés, de rails de chemin de fer tordus, de rondins de bois pulvérisés. À ma droite, je distingue un fossé étroit, profond de 3 mètres, creusé lui-même de 50 mètres en 50 mètres, de puits obliques de 5 mètres de profondeur, dont l'entrée est en sens inverse de la parabole d'arrivée de nos obus. Des casemates blindées avec des rails et des traverses servaient aux mitrailleuses. Tout cela n'est d'ailleurs plus qu'un chaos sans forme et sans nom, impossible à décrire, creusé de trous profonds d'où sortent des éclats d'acier monstrueux. Des engins explosifs encore couchés sur le sol ou à demi enterrés, menaçants et farouches sur la terre desséchée. Et, malgré le travail de déblaiement, d'innombrables débris, capotes grises, fusils en morceaux, broyés, tordus. Je pense qu'au fond des puits de craie, la grenade à main, jetée par l'ouverture étroite, y a broyé ceux qui s'y réfugièrent. Quelles durent être les idées de ceux-là, nos ennemis, qui, enfermés ici pendant 3 jours, sous la tempête de feu, sentant s'écrouler une à une, dans une angoissante solitude, leur formidable défense, coupée de leur armée, leur ligne de communication anéantie, dans une nuit effroyable, rayée de lueurs rouges, de flammes verdâtres, éclairant des corps qui sautent, des cris d'épouvante qui s'éteignent, virent la mort s'approcher, pas à pas, minute par minute, pendant 3 jours. Au travers du mur épais de cette terre de France qu'ils avaient cru conquérir.
Après le choc, rentré à l'abri ou au repos, on se remémore ce que l'on a vu, fait ou subi. Pierre Lanvin, aspirant au 22e régiment d'infanterie, dans la nuit du 15 au 16 avril 17, croit trouver un peu de repos.
Je me glisse dans la sape du capitaine. En passant sur les corps d'hommes endormis ou d'hommes morts, confondus parfois dans des poses étrangement pareilles, j'arrive à me caser, accroupi, contre le docteur. On pense à manger, on se met à éplucher les œufs durs écrasés dans les musettes, à déboucher les bouteilles provenant des boches. Bruit des obus, assourdis, des hommes qui ronflent, des blessés boches qui râlent et se mettent à parler doucement dans leur langue que je comprends pas. Ils disent comme des prières, et les bougies allumées le long des souterrains et sur les marches de l'escalier brûlent, comme pour une cérémonie funèbre, des bougies boches, il y en a des caisses entières. Je m'endors, mon couteau à la main, mon car à moitié vide, et des larmes coulent sur mes joues.
La nuit et ses rêves n'apportent pas toujours de dérivatifs. Gabriel de Goy, ce sergent sapeur que nous avons déjà entendu.
Jeudi 7 octobre 1915. Nous ne sommes pas partis et nous avons passé une bonne nuit réparatrice. Au loin, on entend toujours le canon. Il paraît que le 8e corps est devant nous. Nous avons dormi sous nos toiles de tente, on commence à s'y habituer, vision de l'attaque, vue d'un tirailleur couvert d'amulettes, un zouave, tuant d'un coup de poignard un officier d'artillerie et en même temps tué par ce dernier d'un coup de revolver.
Il n'est pas rare que tout cela rende fou. Le même Gabriel de Goy raconte le 1er septembre 1914, donc très tôt dans la guerre.
J'ai vu un mitrailleur du 42e qui est devenu complètement fou. Il a les yeux hagards, remue la tête de droite à gauche, il a toujours le bras droit avancé et fait le mouvement de tirer sur la gâchette de sa pièce. Il répète sans cesse « Roger, passe-moi une bande. Mon lieutenant, la pièce est foutue !»
Sans sombrer dans la folie, bien des poilus ont des hallucinations. André Biteau décrit les nuits dans la tranchée, dans le secteur avant de Baccara, à la fin de l'automne 15.
Est-ce l'inquiétude ou la peur d'être surpris? On se sent dans une complète insécurité. Des choses irréelles se meuvent et semblent danser dans la demi-obscurité. L'esprit s'agite, les nerfs se tendent, car malgré ce calme relatif, ce noir est rempli de menaces. Des fantômes errent dans la nuit. Attention, regarde bien là, à 50 mètres. Une forme semble se mouvoir. Eh oui, l'hallucination devient collective. Pan ! Instinctivement, on a appuyé sur la gâchette. La balle a tué le fantôme, et comme par enchantement, cette fantasmagorie s'est évanouie. Ce petit coup sec a remis les idées en place. Et tandis que nous sommes là, transis de froid et même d'inquiétude, les pieds dans la boue glacée, sous le vent de bise qui souffle âprement, dominé par une inquiétude qui frise la peur, l'esprit ouvert à toutes les hallucinations, 200 mètres en arrière, dans un abri solide et confortable, chauffé et aménagé spécialement, le lieutenant de la section et, plus loin encore, le capitaine dorment béatement ou feuillettent La Vie parisienne ou autres journaux galants.
En proie à des hallucinations, les poilus ont parfois des pensées bizarres devant des spectacles qui nous feraient à nous dresser les cheveux sur la tête. Ils en ont tellement vu, ils sont blindés. André Biteau est dans la Somme en 1918. Certains objets, certaines rencontres lui inspirent des réflexions étranges.
En haut d'une côte, endroit qui semblait avoir été un carrefour, ravagé, noirci, bouleversé, la terre, là aussi, semblait morte. Sur le milieu qui semblait avoir été la chaussée, gisait, à découvert, négligemment, comme un bout de bois qu'on aurait perdu, là, une main humaine, en bon état, tenant encore à une moitié d'avant-bras. Blasé par la vue et par l'odeur des cadavres dans toutes les positions et dans un état de putréfaction avancée, cette mini-chose, direz-vous, ne pouvait guère nous influencer. Eh bien, si. Cette main aux doigts effilés, blanche comme une main de femme, une partie de cet être était là, morte, tandis que l'autre partie était peut-être encore vivante. Ce dilemme rendait ce cas encore plus mystérieux que la vue d'un cadavre complet. Qu'est devenu le propriétaire de cette chose macabre? Était-il mort ou vivant, blessé en laissant une partie de sa personne en ces lieux? Pour un peu, on se serait baissé pour ramasser cette main et la porter aux objets trouvés.
La mort est une éventualité à laquelle il faut préparer ses proches. Théodore Moser, lieutenant au 79e régiment d'infanterie, écrit à l'intention de sa femme une dernière lettre, d'abord le 5 avril, puis le 20 mai. Il met ces deux lettres dans une enveloppe qu'il conserve par-devers lui. Voici celle du 20 mai 1915.
20 mai. Ma guide bien-aimée, j'ai été épargné au cours des combats devant Carency et Ablain-Saint-Nazaire du 9 au 15 mai. J'ai remercié Dieu de la protection qu'il a bien voulu me donner. Je le prie ardemment, comme toi, ma guide, de me conserver cette faveur. J'ai vu la mort de près, ni plus ni moins que d'autres, et c'est affreux d'être fauché ainsi. Devant les spectacles abominables du territorial et du soldat imberbe tué, c'est toi, ma bien-aimée, ma mère et Jacques que j'ai vus. Que de fois mon cœur s'est-il révolté devant ces pauvres cadavres dont les parents, angoissés d'être sans nouvelles, m'apparaissaient désolés sans que je les connaisse. Ma louloute, que de fois j'ai pensé au chagrin que nous éprouverions en apprenant la mort de Jacques à 20 ans. Glorieuse ou pas, la mort est la mort. Et c'est atroce quand on aime sa femme. Devines-tu quelque chose de comparable au geste du soldat qui, avant l'assaut, épingle à sa capote la lettre qu'il vient d'écrire à sa femme? Ah, guerre maudite! Moi, ma fille, je n'ai pas ce courage. C'est pourquoi je t'écris cette lettre. Je ne veux pas changer en un coup terrible la joie que tu ressens quand tu reconnais l'écriture de ta loute. Tu aimes trop ton grand pour ne pas deviner qu'il n'est plus. Alors tu te diras souvent qu'il t'aimait, qu'il t'adorait, toi, sa chère petite femme, sa compagne, chérie, qu'il ne peut regarder sans qu'aussitôt des larmes lui viennent aux yeux, sans souffrir en pensant au chagrin qui est le tien. À toi, ta loute. Tout le monde la déteste, cette guerre qui cause tant de deuil. Chacun en est fatigué, dégoûté. La paix serait accueillie avec soulagement. C'est la vérité.
Et puis, il y a la dernière lettre, non du point de vue du poilu, mais pour celui ou celle qui la reçoit, et pour tous ses descendants, celle qui recèle l'état d'esprit de celui qui est déjà mort, sans qu'on le sache toujours quand on la reçoit. Robert Fournier, adjudant-chef de 21 ans, fils du maire de Dijon, écrit le 31 mars 1916 à sa belle-sœur Germaine, épouse de son frère Alexandre, une lettre datée du 1er avril.
Ma chère Germaine, quelque temps déjà que je n'ai eu de vos nouvelles. Que devenez-vous? Avez-vous pu voir votre frère? Nous avons un temps superbe depuis hier. Si ce n'était ce bruit continuel des canons, la vie serait encore supportable. Cette nuit, presque impossible de dormir. Le grondement était effrayant. Tous les monts qui nous protègent semblaient embrasés et nous pouvons être appelés à monter d'un moment à l'autre. Ce serait peut-être notre bonheur. Une gentille petite blessure, puis évacuée sur Nice ou Vichy, convalescence, permission. Enfin, revoir un peu cette vie que j'ai quittée depuis 17 mois ne serait pas pour me déplaire. Je vous quitte en vous embrassant bien affectueusement, ainsi que Simon. Mes amitiés à votre frère, Robert.
Son même aux portes, Robert Fournier, adjudant-chef mitrailleur au 158e régiment d'infanterie, tué à l'ennemi à l'âge de 21 ans, affaire de Vaux, bataille de Verdun. 31 mars 1916.
La mort est omniprésente. Y penser sert le cœur. L'armée y pourvoit aussi parfois. Beau temps, quelques obus. Aujourd'hui, une chose pas ordinaire. On parle de faire des croix d'avance pour nos prochaines offensives. C'est un peu dur à avaler. Je ne crois pas qu'on passe à l'exécution.
Le même Gabriel de Goy raconte aussi.
Les Allemands sont à plaindre autant que nous. Ayant eu un lieutenant tué, nous avions fait creuser une tombe par un prisonnier allemand. Ce pauvre diable pleurait à chaudes larmes. Il était père de 4 enfants. Nous ne comprenions pas le motif de sa tristesse. Mais finalement, nous avons compris qu'il croyait creuser sa propre tombe et que sa dernière heure était venue. Nous eûmes toutes les peines du monde à le rassurer. Mais quand il a su ce qu'il faisait, il est devenu radieux et voulait faire tous les travaux pénibles.
L'année suivante, le même caporal raconte encore un épisode pénible.
Le soir, il y a conseil de guerre pour 3 soldats de la 8e de Besançon. Berceau, Cotel et Molle, pour refus d'obéissance et mutinerie, au sujet d'un pantalon. L'un, Berceau, sera passé par les armes. Cotel, 10 ans de travaux publics. Et Molle, acquitté. À moins qu'un pourvoi en grâce soit envoyé. Samedi 13 février 1915. Pluie épouvantable dans la matinée. À 6h30, exécution de Berceau, en dehors du village. Ce pauvre diable a dû passer une nuit atroce. Il est pris comme une loque et porté au lieu d'exécution par le lieutenant Billet et l'aumônier du 60e. Le peloton d'exécution se compose de 4 sergents, 4 caporaux et 4 hommes. Ses 2 camarades de la veille sont là comme témoins. Derrière viennent 4 hommes avec une pioche et 4 autres avec une pelle. Sous le commandement d'un adjudant, une rafale et c'est tout. Le coup de grâce, 2 fois. Avant de mourir, le condamné appelle sa femme et sa fille Camille. Triste chose que les nécessités de la guerre.
Puis il y a la demi-mort du prisonnier. Pour lui coulent des heures longues et grises. Certes, il est à l'abri, comme les blessés, mais à l'ennui s'ajoute l'impuissance, la nostalgie et la frustration. Alors, il chante des poèmes de sa composition.
Doux frôlements de bouches blondes, bruit de baisers, serments d'amour, vous passez en vagues profondes et le captif rit à son tour. Il sent son cœur battre plus vite avec l'ardeur de ses 20 ans. Puis c'est une pâleur subite et la terreur succède au chant. Le rêve a sa fin douloureuse, le sommeil son réveil brutal. C'est la guerre affreuse, on s'égorge au pays natal. Le prisonnier tourne la tête, la main chasse un spectre obsédant. Ce qu'il voit dans le ciel en fait, c'est une immense mer de sang.
Les poilus font de leur vie des poèmes et des chansons, tels celui-ci, écrit à Perte les Hurlus, dans la Marne, en 1915, intitulé « La relève » et qui pourrait rimer avec « Marche ou crève ».
Sur un terrain vague, inégal et défoncé, couvert de mains obstacles, de fils barbelés, nous recherchons l'entrée d'un boyau introuvable près de vieilles tranchées et de trous innombrables. Dans cette craie, hésitant, on va, on s'empêtre, on glisse, on chavire et l'on s'abat avec de sourds jurons. Et puis on se relève et chaque fois les griffes de fil nous enlèvent un peu de vêtements ou un lambeau de chair. Tandis que, fulgurant de violents éclairs que lancent dans le val les pièces réveillées, révèlent une terre affreuse et convulsée, où persiste l'horreur des précédents combats. Un caisson éventré, des cadavres sont là, parmi les fers tordus et criblés de mitraille. Ces visions d'éclairs attristent et fouaillent, et l'on tire plus fort sur le sac, harassé. Et toujours la pluie tombe. Sur les dos courbés, par les larges courroies, nos épaules meurtries entraînent le barda. La tête endolorie n'a plus qu'une pensée, sans répit, avancer, et de la colonne ne pas se détacher. Car demeurer tout seul dans cette nuit obscure, c'est se mettre à merci de la moindre blessure, c'est peut-être rouler au fond d'un trou, râlant, là où jamais le jour ne passe être vivant. C'est se trouver soudain impuissant, solitaire, si des gaz arrivent, la nappe délétère. Et c'est surtout la crainte éperdue de mourir, sans qu'une main amie puisse nous soutenir, sans avoir rien revu de notre pauvre monde, rien, pas même une étoile dans la nuit profonde.
Sensible à la beauté des paysages, et même des armes dans la nuit, Gaston Lebeau écrit en 1916, en Champagne, un poème intitulé « Soir de guerre ». Le spectacle fait naître des images et des métaphores. Le poilu devient troglodyte. Le soleil couchant devient un sinistre présage. Obus et marmite ressemblent dans la nuit à des fleurs. C'est de la même veine qu'Apollinaire dans ses roses guerrières.
Dans le flanc d'un coteau crayeux de la Champagne, d'où l'on surplombe un coin désolé de campagne, comme des troglodytes, nous sommes terrés en des réduits obscurs, suant l'humidité. Tout le long des parois inquiétantes, elles coulent et crevassent le sol qui peu à peu s'éboule. Mélancoliquement, chaque soir est scellé. En rêvant, je contemple le ciel empourpré sur qui, à l'horizon, immense taupinière, se profilent des dômes creusés de cratères. Ce nid de mamelons fut jadis un fortin. Un large réseau de fils barbelés le sein, et son nom, Beau Séjour, est comme une ironie que souligne en assaut le feu des batteries. Lent et majestueux, énorme et solennel, le disque flamboyant vient incendier le ciel et empourprer le peuple sombre des nuages. Ce rougeoiement nous semble un lugubre présage. Soudain, les dos se courbent sous un ronflement. L'atmosphère s'ébranle d'un éclatement. Le messager des reins, en rencontrant la terre, violemment déflagre, engendrant un cratère d'où la fumée intense en s'évasant jaillit. Cependant que d'effroi, nous avons tressailli. Le globe saignant est couvert de fumée sombre, il asperge de feu le nuage qui l'obombre, tandis que des débris de pierre projetées étendent sur le tout un tissu tacheté. Ce long jet évasé de feu et de poussière nous semble être de loin une fleur meurtrière qui jaillit convulsée en un tragique effort de la terre blessée où dorment tant de morts. Puis la fleur émouvante arrondit ses pétales. Des flocons noirs s'échappent un peu de fumée pâle, dominant la corolle de son pistil blanc où l'astre à son déclin jette un reflet sanglant. Mais d'autres obus sifflent, d'autres fleurs jaillissent, les flocons noirs et denses s'estompent, pâlissent et cèdent sous le vent à nos yeux éblouis. L'ombre descend alors et tout s'évanouit. Bouquet saignant de fleurs tristes et merveilleuses, qui jaillissent brutaux de la terre crayeuse et plongent leurs racines au sol émouvant en tirant de leur paix des cadavres effrayants. Fleurs de feu, fleurs de mort, bouquets de violence qui portent leurs fruits au fond des ambulances. Fleurs fugaces, mortelles, au calice d'acier dont les pétales fuient, hurlant et meurtriers. L'infernale beauté de vos gerbes sanglantes nous emplit de ces visions hallucinantes. Vous passez, éphémère et tragique le soir, comme passe et s'enfuit notre fragile espoir d'échapper au remous de la folle tourmente.
Dans l'atmosphère orageuse de l'enfer de Verdun, en juillet 1916, les seuls animaux vivants sont les vers et les mouches. Et pourtant, André Bitaud décrit un événement minuscule, mais de grande portée pour tous ceux qui y ont assisté.
Eh bien, un jour, un miracle se produisit. Oui, un vrai miracle. L'événement était quasi inconcevable. Cela dépassait l'entendement humain. Nous en fûmes stupéfaits et en même temps émerveillés. Nous qui étions isolés, complètement retranché du monde, moitié mort ou considéré comme tel. L'espoir, la joie et le réconfort nous furent apportés par une bien petite chose, une visite bien fugitive qui nous remit un peu de baume au cœur. Tous, le temps de quelques secondes, nous vîmes un petit oiseau qui voletait et se posa sur une branche mutilée. Ses deux petits yeux ronds étonnaient, nous fixant un moment. Il ouvrit le bec et, comme pour nous parler, lança quelques notes et hop ! Fuyant la folie des hommes, s'envola plus loin, emportant avec lui comme un espoir de survie et un message d'espérance. Cette visite produisit un effet inexprimable sur nos pauvres âmes en désarroi, inexplicable pour ceux qui n'ont pas connu les affres provoquées par notre situation. La vue de ce petit passereau me procura une des plus grandes joies consolatrices de ma vie.
Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais où. Je me rappelle bien la vendange était bonne et le vin était doux. La veille, nous avions ramassé des girolles au bois de Viremont. Les enfants venaient juste d'entrer à l'école et le temps était bon. Mon mari est parti un beau matin d'automne. Le printemps est ici. Mais que voulez-vous bien que le printemps me donne? Je suis seule au logis. Mon mari est parti avec lui, tous les autres maris des environs. Le tien, Éléonore, et vous, Marie, le vôtre, et le tien, Marion. Je ne sais pas pourquoi, et vous non plus sans doute, tout ce que nous savons, c'est qu'un matin d'octobre, ils ont suivi la route et qu'il faisait très bon. Des tambours sont venus nous jouer une aubade. J'aime bien les tambours. Il m'a dit, je m'en vais faire une promenade. Moi, je compte les jours. Mon mari est parti, je n'ai de ses nouvelles que par le vent du soir. Je ne comprends pas bien toutes ces péronnelles qui me parlent d'espoir. Un monsieur est venu m'apporter son costume. Il n'était pas râpé. Sans doute qu'en chemin, il aura fait fortune et se sera nippé. Les fleurs dans son jardin recommencent à poindre. J'y ai mis des iris. Il le désherbera en venant me rejoindre lorsque naîtra son fils. Mon mari est parti quand déjà la nature était toute roussie. Et plus je m'en défends et plus le temps me dure, et plus je l'aime aussi. Marion, m'a-t-on dit, vient de se trouver veuve. Elle pleure beaucoup. Éléonore s'est fait une robe neuve et noire et jusqu'au cou. Pour moi, en attendant que mon amour revienne, je vais près de l'étang. Je reste près du bord, je joue et me promène. Je parle à mon enfant. Mon mari est parti un beau matin d'automne, parti je ne sais quand. Si les bords de l'étang me semblent monotones, j'irai jouer dedans.